Dans Marc 3, au verset 5, il est dit que Jésus, eh bien, promet un regard de colère sur l'assistance et il est navré de voir leur endurcissement. Donc là, déjà, dans cette moitié de verset, on voit qu'il y a des émotions qui sont ressenties. D'une part, Jésus, qui se pique une colère, et puis les pharisiens, qui, évidemment, sont endurcis et fermés sur eux. Alors, quand on dit « je vis mal mes émotions douloureuses », il faut peut-être se dire « Jésus les a ressenties ». Donc, pourquoi nous, hommes, on ne les ressentirait pas? Est-ce que il ne serait pas dangereux de les occulter, de ne pas vouloir en tenir compte? Ne faut-il pas plutôt chercher quelle est leur signification, quelle est leur importance? Parce que si on le fait, ben, ça peut changer les choses.
Je dirais que... comme dans une cuisine, le four a un voyant de température, un voyant d'allumage.
Oui.
Le frigo a un voyant d'allumage. Comme dans la voiture, le tableau de bord a un voyant d'huile, un voyant de batterie, etc. Nous avons un voyant de bon état avec nos émotions, nos états d'âme. Et je dirais que peut-être une pratique générale de notre 21e siècle, c'est de rechercher à toujours avoir des émotions agréables. Un peu comme si on voulait toujours que le ciel soit bleu. Mais quand le ciel est bleu, s'il ne pleut jamais, alors c'est la sécheresse, en fait. Et les nuages sont utiles. Et les alternances entre la chaleur et le temps plus humide ou plus frais sont nécessaires.
Vous savez pourquoi les Grecs sont très forts dans les tragédies antiques? Parce que ce ciel bleu en permanence, eh bien, ça donne une impression de solitude, en fait. Donc, il ne faut pas souhaiter que le ciel soit toujours bleu. Bon, je ferme la parenthèse.
Alors, effectivement, Jésus, qui est parfaitement homme et qui est parfaitement Dieu, en étant parfaitement homme, a vécu et vit des émotions qui sont décrites dans Marc 3, verset 5, avec notamment la tristesse et la colère. Alors, on pourrait dire, mais quel est l'intérêt de ces émotions? Il nous est dit dans ce verset que Jésus est attristé, comme vous l'avez souligné, de l'endurcissement du cœur des pharisiens. On pourrait dire que cette émotion douloureuse de la tristesse est donc quelque chose qui devrait nous arriver assez souvent. Chaque fois qu'on lit le journal, qu'on écoute la radio, qu'on regarde la télévision, qu'on passe dans la rue et qu'on voit quelque chose d'anormal, on devrait être attristé. Et ne pas être attristé serait anormal. Ne pas être attristé, ce serait peut-être fermer les yeux, s'endurcir. Nous avons cette tristesse comme un nuage dans le ciel bleu.
Ça devient un robot, sans sentiment.
Si on n'était pas triste, on serait un robot.
Oui.
La tristesse, elle découle directement de notre regard sur les circonstances. De sorte que nos états d'âme sont ce qui résulte de notre manière de voir. Et quand on regarde, alors si on voit des choses tristes, alors on est triste. Et c'est tout à fait normal. Mais la grande question, c'est vers quoi cette tristesse nous mène-t-elle? Pourquoi Dieu nous a-t-il dotés de capteurs, d'éléments justement de l'ordre de l'émotion, et qui vont nous procurer un état d'âme désagréable? Eh bien, il me semble que c'est pour que nous réagissions. Si on voit quelque chose d'anormal, on en est triste. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui est de ma responsabilité pour que j'intervienne? Jésus est attristé de l'endurcissement du cœur des pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait quelque chose. Il va guérir cet homme qui a une main paralysée, et il va donner à ces pharisiens, qui sont des chefs religieux du peuple d'Israël au moment où il est lui en Israël, il va leur donner la possibilité, l'occasion de changer, d'évoluer, de faire quelque chose. Il est triste par la circonstance présente, mais il va, dans le domaine de sa responsabilité, faire quelque chose qui peut faire évoluer la tristesse en joie.
Donc, en fait, une émotion douloureuse ressentie permet d'apprendre quelque chose, dans la rue, vous trouvez quelqu'un qui mendie, qui n'a pas de pied ou pas de main, ben, vous comprenez qu'il en soit à cette situation-là. Bon, il faut dépasser cette compréhension, cette découverte, cette connaissance et agir. Bon, je ne dis pas la solution à vous dire ce soir pour le mendiant du coin de la rue. Mais c'est ça.
Donc, et on pourrait dire que l'état d'âme ou l'émotion douloureuse est à la fois un signal qui doit m'interpeller, qui doit me faire comprendre des choses, mais c'est aussi un signal pour l'autre. Oui, le jour où vous me voyez triste,
oui,
Pierre,
je m'inquiétais.
Vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas.
Oui, oui.
Et c'est l'émotion, on pourrait dire, c'est la partie irrationnelle du langage.
Une autre sorte de communication.
Voilà.
Tu es triste, pourquoi tu es triste? Et donc, il peut évidemment, donc là, s'ouvrir une communication, un échange. Et puis ça pousse à l'action.
Et voilà. Parlons maintenant de la colère.
Oui.
Puisque Jésus a regardé les pharisiens...
Je crois qu'on va arriver au coup de fouet.
Avec colère. Alors, je crois qu'il y a un lieu commun chez les chrétiens, un peu toutes tendances confondues, c'est-à-dire qu'être en colère est un péché. Et ça, c'est vraiment malheureux. Parce que justement, Jésus a regardé les pharisiens avec colère.
Oui, oui, oui.
Jésus a dit aux pharisiens quelque chose avec colère. Et souvent, quand les gens me connaissent d'un peu près et finissent par redouter mes affirmations un petit peu fermes et mon regard un peu sévère, un peu noir, alors ils me disent « Oh, Jésus n'aurait pas dit les choses comme toi. Jésus, lui au moins, il était amour. » Alors moi, je réponds « Mais je ne suis pas certain de ça. » Hein, je crois que Jésus, quand il a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan », hein, quand il a dit à ses disciples « Comment ne comprenez-vous pas? Vous n'avez pas été rendu intelligent par les pains. » Hein, je crois que Jésus n'était pas quelqu'un de commode dans ces moments-là. La colère, c'est l'indignation face à l'injustice. Quand quelque chose ne va pas, on dit non, ou on amène la vérité, et de ce fait, l'état émotionnel qui va avec tout ça, c'est la colère. Mais il ne faut pas confondre la colère et l'emportement. Dans notre société, ce qui est jugé, c'est l'emportement. Et chaque fois qu'on parle de colère, on parle d'emportement. Ce qui fait qu'on parle tellement...
Une erreur de mots, là.
Il y a une erreur de mots. On parle tellement de colère en pensant emportement que quelque part, on ne va plus oser dire non. Il y a quelque chose de tout à fait anormal.
On a peur de réagir.
On a peur de réagir, on a peur d'amener la vérité. Jésus avait en face de lui les chefs religieux du peuple d'Israël.
Les responsables.
Donc des gens qui étaient puissants. Des gens qui étaient puissants pour le mettre à mort, comme ce qu'ils ont fait d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais Jésus n'a pas craint de leur dire, même avec colère, en étant complet dans ses états d'âme, ce qui n'allait pas. La colère est donc quelque chose qui nous sert, mais aussi quelque chose qui va servir aux autres.
Oui. Donc, toutes ces émotions douloureuses, c'est un peu comme la souffrance, ce sont des signaux qui vous obligent de réfléchir et puis de comprendre et d'agir.
Des signaux pour nous.
Oui, et parfois pour
des signaux aussi. Pour les autres.
Oui, oui.
Prenons quelques exemples. Je vais au travail et j'arrive bien à l'heure, je fais mon travail, et mon chef ne me fait aucun compliment. Et même quand il a l'occasion de me faire un reproche, il me le fait. Et je suis en colère contre lui. Mais comme je sais bien déguiser mon visage,
tout
et que je ne lui dis jamais, alors il ne le sait pas. Ce qui fait que mon chef, il ne sait pas que les choses ne vont pas bien. Alors, qui est-ce qui a tort ? Eh bien, c'est sûr que le chef qui ne fait jamais de compliments, il a tort. Mais la personne qui ne dit jamais sa souffrance, elle a tort.
Elle a tort aussi.
Elle n'a pas exprimé sa colère. Elle a masqué ses émotions. Elle les a masquées peut-être parce qu'elle craint d'être licenciée, d'être déconsidérée, d'être...
Je sais pas, tout ce qu'elle pourrait... Ouais.
Voilà. Ouais. Elle craint tout un tas de choses. Alors là, on voit que nos états d'âme sont des choses qu'il faut manifester et vivre, mais il faut bien comprendre que nos états d'âme sont dictés par le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, et que ce regard doit être juste. Prenons un autre exemple. Dans les couples.
Oui.
Dans les couples. Il y a souvent, souvent dans les couples, des choses qui sont non dites, qui sont... parce que, par exemple, le mari aimerait que la femme fasse ceci, et la femme aimerait que le mari ne fasse pas cela.
Oui.
Et donc, en fait, les choses ne sont pas dites. Ou les choses sont tellement dites qu'elles sont mal dites et qu'on en finit par ne plus savoir comment les dire ou se faire comprendre.
Elles sont enfoncées depuis trop longtemps.
Voilà.
Enterrées.
Alors que si au contraire on disait, mais voilà, j'ai des états d'âme, je vais les faire connaître, mais je ne vais pas exiger les choses. Mais je vais dire, voilà, je suis triste parce qu'il y a ça, 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 ça. Je suis en colère parce qu'il y a ça, 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 ça. Voilà. Alors là, parce qu'on n'accuse pas, parce qu'on ne rejette pas la personne, mais parce qu'on se fait simplement connaître. Alors là, la relation peut grandir en qualité et peut être en progrès, il peut y avoir une meilleure relation et des choses qui font qu'après ça se passe mieux.
Il est évident que si on fait le bilan, l'inventaire, comme vous dites, en disant « je suis triste pour telle chose », il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'accusation. Donc, ça ouvre la porte à la communication.
Absolument.
L'autre peut évidemment dire, ah oui, mais pourquoi ? Je ne le savais pas, d'abord. Enfin, je ne le savais pas, je n'avais pas compris. Il faut voir, et puis ça peut déboucher sur une solution. Et c'est encore mieux si l'autre dit à son tour, je suis en colère pour ça.
Oui. Un autre exemple, c'est les parents qui disent à leurs enfants, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais ils le disent avec une émotion qui montre clairement à l'enfant qu'il s'en fiche, en fait. Hein, c'est pas « il faut pas que tu fasses ça », c'est « oh, s'il te plaît, le fais pas, s'il te plaît, fais-moi plaisir ». Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus pour la facilité des parents que les parents demandent aux enfants de ne pas faire. Mais si les parents étaient vraiment convaincus qu'il ne fait pas que les enfants fassent ça, alors ils le feraient pas. Hein, là, les choses sont très...
Il faut convaincre, effectivement.
Alors, je voudrais aussi proposer quelque chose d'un peu global.
Oui.
Les états d'âme ou le bonheur de manière générale se trouve en construisant ces états d'âme agréables et en faisant que s'estompent ces états d'âme désagréables.
Oui.
Donc je dirais en quelque sorte que il faudrait arriver à construire son bonheur et à détruire son malheur.
Ça paraît très logique.
Ça paraît très logique. Oui. Et pourtant, c'est très peu fait.
Je ne peux pas être heureux si j'ai du malheur.
Exactement. Alors comment vivre mes émotions douloureuses ? Eh bien, c'est en comprenant que ici, par exemple, la colère m'amène à retrouver ce qui est juste avec quelqu'un. La colère contre moi, la colère contre l'autre. Que la peur m'amène à retrouver une relation appréciée. Si j'ai peur de quelqu'un, pourquoi suis-je peur de quelqu'un ? Que l'insatisfaction m'amène à faire quelque chose de plus juste, de plus opportun, par exemple. Que la frustration m'amène à faire quelque chose de plus libre, de plus volontaire, dans lequel je m'inscris beaucoup plus. Que la fébrilité m'amène à vivre des relations, des circonstances, des situations dans lesquelles je ne vais pas, moi, nourrir l'anxiété. Et que la tristesse m'amène à agir en tant que responsable dans tout ce que Dieu me donne de possibilités, d'éventualités, de capacités pour faire quelque chose. Ici, j'ai donné 6 points, 6 émotions douloureuses, qui sont la colère, la peur, l'insatisfaction, la fébrilité, la frustration et la tristesse. Et donc, ça vaudrait la peine que quelqu'un fasse une liste de ses états d'âme. Et tous les jours, se dise, tiens, est-ce que je suis frustré ? Est-ce que quelqu'un m'obligerait à quelque chose ? Mais pourtant, Dieu ne m'oblige pas. Et donc, en prenant conscience de mes frustrations, de dire, mais si je vis cet état d'âme douloureux, cette émotion douloureuse, alors c'est certainement pour que je réagisse par rapport à ça, et que je change. Et c'est comme ça que mes émotions douloureuses s'estomperont.
Oui, donc ce tableau serait très important à avoir sous la main.
Et voilà. Ouais. Et c'est quelque chose de possible. Hein, il suffit de réécouter ce qui a été dit, de le noter avec soi.
Et de les noter.